tout de suite sur Radio Saint-Fée, Petites Échappées.
Petites Échappées, ce sont des chroniques, des reportages, des enquêtes, des créations sonores.
Des formats courts, moyens ou un peu plus longs pour profiter encore plus des pépites sonores sélectionnées par l'équipe de rédaction de la radio.
Petites Échappées, tous les mercredis de 15h à 16h et en rediff le dimanche de 8h à 9h.
Espace d'espèces, une série documentaire de Lucie Combes et Aurélien Caillot.
Assis sur un banc ombragé, vous laissez votre esprit dériver sur les eaux calmes d'un petit lac, d'un canal, d'un bassin, peu importe. La journée est chaude. Le son du vent dans les feuilles des tilleuls dissimule le bourdonnement du périphérique. Dans cet écrin de verdure, vous oubliez la ville.
Oh, regarde le joli castor qui nage!
Ah, mais non, c'est un gros rat. Allez, viens, on s'en va.
L'expression de dégoût que vous venez d'entendre en dit long sur le regard qu'on porte généralement sur ce mammifère commun, mais pas si connu. Vous voyez de qui je parle? Le ragondin. Fouillez de vos yeux le bord de l'eau. Vous pourriez bien y observer deux spécimens occupés à nager. Animal aquatique, notre ami Myocastor coypus, de son nom savant, est depuis les années 70 un habitant permanent des cours d'eau et bassins des zones urbaines. D'une taille moyenne de 60 à 80 cm, c'est un gros rongeur à la fourrure brune, au corps trapu et à la tête en triangle surmontée de petites oreilles. Peu de risque de le confondre avec son cousin le castor, plus rare, même s'il est présent dans plusieurs villes françaises, et dont on connaît l'emblématique queue plate. Mais attention à bien le distinguer de son acolyte, le rat musqué. Le ragondin est nettement plus gros. Il a une queue cylindrique, dépourvue de poils. Sa fourrure est brun foncé, quand celle du rat, plus claire, tire sur le gris. Dernier détail utile, si vous regardez sous la truffe d'un ragondin, derrière ses moustaches, vous verrez dépasser 4 incisives orange vif. Mais bon, de toute façon, on croise nettement plus souvent des ragondins que des rats musqués, plus discrets. Les individus que vous observez ont probablement creusé leur terrier par ici, dans les berges des bassins. Imaginez un peu, une galerie étroite allant jusqu'à 6 mètres de long, qui mène à une chambre, au sol tapissé d'une litière de végétaux. La principale entrée du terrier est immergée, ce qui permet au ragondin d'y pénétrer sans sortir de l'eau. Mais il prend soin de se ménager plusieurs accès, dans et hors de l'eau. Le ragondin sort assez peu de son bain. Sa morphologie est totalement adaptée à son milieu. Son nez, ses yeux, ses oreilles situées sur la partie haute de son crâne surnagent quand il est immergé. Ses pattes postérieures sont palmées. Sa fourrure est constituée de poils épais et imperméables. Chez les femelles, les mamelles sont situées très haut sur les flancs, près de la colonne dorsale, ce qui leur permet d'allaiter tout en se déplaçant dans l'eau. Ce qu'il aime par-dessus tout, ce sont les eaux dormantes, ou avec peu de courant, et les berges recouvertes de végétation permanente, dont il se nourrit abondamment, allant jusqu'à boulotter près de 25% de son poids en végétaux frais par jour. Petit détail croustillant, comme il ne trouve pas les nutriments et acides aminés dont il a besoin dans les végétaux qu'il mange, il pratique ce qu'on appelle la double digestion. C'est-à-dire qu'il consomme ses propres cacotrophes, petites crottes molles qu'il n'a pas totalement digérées et qui lui apportent les compléments nécessaires. Voilà, voilà. Ah, à les observer clapoter comme ça dans l'eau, on sent monter cette émotion, celle qui nous étreint à chaque contact avec la faune sauvage, avec cette nature fragilisée par l'homme, mais dont malgré tout quelques représentants sont encore visibles dans la froideur de l'espace urbain.
Mais qu'est-ce que vous racontez? Le ragondin n'est absolument pas fragilisé. Il se multiplie à vitesse grand V et n'est pas vraiment un représentant de la nature sauvage. En tout cas, pas de celle d'ici.
En fait, son deuxième nom latin, coypus, viendrait de coypu, qui voudrait dire « celui qui nage majestueusement en mapuche ». Oui, parfaitement, en mapuche, la langue indienne autochtone parlée en terre de feu, cette région entre le Chili et l'Argentine. Ah oui, parce qu'il n'est pas originaire du Lauragais, le ragondin, mais plutôt de Patagonie. On en entend parler en Europe à la fin du XVIIIe siècle, à travers l'ouvrage « Histoire naturelle du Chili » rédigé par le prêtre jésuite Juan Ignacio Molina, qui évoque un radeau de la grosseur et de la couleur d'une loutre. Début XIXe, c'est à Paris, par l'étude d'un stock de fourrures importé et vendu dans le commerce européen depuis quelques années déjà, sous le nom de Racunda, qu'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, naturaliste, rédige une première publication sur le ragondin, le plaçant sur le devant de la scène scientifique. En France, à partir de la moitié du 19e, quelques spécimens sont ramenés dans les parcs zoologiques ou exhibés dans les foires comme rats monstres dont on dit qu'ils mangent les enfants. Au début du 20e siècle, emboîtant le pas aux expériences précédemment menées en Argentine, les premiers élevages se développent en Europe. En France, dans les années 30, on en compte près de 200 répartis sur l'ensemble du territoire. Mais l'industrie de la fourrure, touchée par la crise, puis la guerre, va lentement péricliter jusqu'à sa disparition quasi totale dans les années 80. Et les ragondins, eux, s'échappent de leur cage quand ils ne sont pas directement relâchés en masse. Vous imaginez la suite ? L'animal domestique a pris la clé des champs. Il est devenu féral, ensauvagé, s'acclimatant avec bonheur dans les cours d'eau, étangs et marais, jusqu'à être aujourd'hui présent dans 70 départements en France. Et son installation n'a pas eu lieu qu'ici. Il habite désormais sur tous les continents, de la Finlande au Botswana, de la Thaïlande à l'Arménie, de l'Uruguay à la Grèce. S'il s'est très vite multiplié, c'est qu'il avait été sélectionné pour sa haute prolificité. La femelle peut en effet avoir 2 à 3 portées par an, selon les conditions météorologiques, comptant chacune 3 à 12 petits. Et puis ici, il n'a que très peu de prédateurs naturels. À la base, il est plutôt chassé par le caïman ou le jaguar. Alors il devient visible, trop visible, dérangeant les activités des êtres humains, de celles et ceux qui sont allés le chercher quelques années plus tôt. Mercredi 5 novembre 2014, Nantes. Lors d'une manifestation d'agriculteurs organisée par la FNSEA, des ragondins sont jetés de caddies, aspergés de peinture, battus par des manifestants et manifestantes. Face à l'indignation de l'opinion publique, le président de la FNSEA 44 s'insurge.
C'est scandaleux que tout le monde se focalise sur cette histoire. Il y a visiblement un décalage profond entre les citadins et le monde rural. Il faudrait que les citadins sortent un peu de chez eux et mettent des bottes pour voir notre réalité. Les ragondins sont des animaux nuisibles. Ils détruisent les ruisseaux, les berges, les récoltes, véhiculent des maladies pour le bétail. Ils peuvent aussi être dangereux et agressifs pour l'homme. C'est un fléau pour notre profession et nos campagnes. Et c'est pas pour rien qu'ils sont piégés.
En trois mots, cet homme a résumé la terrible réputation du ragondin et les charges retenues contre lui. Les galeries qui creusent déstabilisent les berges et contribuent à leur effondrement. On dit de son grand appétit qu'il conduirait à la disparition de certains végétaux aquatiques, là où il est présent. Par ailleurs, on l'accuse d'avoir un goût trop prononcé pour les céréales cultivées à proximité des cours d'eau, ce qui ne serait pas sans conséquence sur les activités agricoles. Pour ne rien arranger, il peut être porteur, comme pas mal d'autres animaux, de plusieurs maladies transmissibles à l'homme, et notamment la leptospirose, aussi appelée maladie des égouttiers, susceptible de générer des altérations graves des reins et du foie. On peut entrevoir dans ce réquisitoire la mise en relief de certaines de nos dérives de gestionnaires, comme l'artificialisation des zones humides et aquatiques qu'affectionne l'animal, la chenalisation des cours d'eau, la réduction de la flore spontanée des bords de rivière au profit des cultures. Mais bon. Une chose est sûre, c'est qu'il n'en fallait pas plus pour qu'on mène la vie dure à cet animal, jadis qualifié officiellement de nuisible, appellation remplacée depuis la loi de 2016 sur la biodiversité, par le joli nom d'Ésode, espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Une petite nuance qui a son importance et qui nous donne l'occasion de regarder de plus près les textes. Historiquement, dans la loi, un animal est soit domestique, soit sauvage. Res propria, bien, propriété de quelqu'un, ou res nullus, chose sans maître. Mais quid du ragondin, de la perruche à collier ou de la vache férale corse, un temps domestique, aujourd'hui sauvage ? L'arrêté du 11 août 2006, donnant la définition d'animal domestique, s'accompagne d'une liste d'espèces dans laquelle paraît la perruche à collier, mais pas le ragondin. Le ragondin fait donc partie des bêtes sauvages, res nullus, propriété de personne, qui sont elles-mêmes classées en différentes catégories. Espèce protégée, espèce chassable, espèce sans statut, donc ni chassable ni protégée. Et Ésode, espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Ex nuisible, classement qui signifie toujours « à détruire » et dont le ragondin fait partie. Pire, il est dans la liste des animaux non indigènes, pas de chez nous. Les fameuses EEE, espèces exotiques envahissantes, dont on a parlé précédemment avec la perruche à collier. Les propriétaires des terres sur lesquelles il est présent sont donc autorisés à l'éliminer ou à le faire éliminer toute l'année et il peut faire l'objet de battues administratives. Bon, ça, c'est plutôt à la campagne. En ville, notre mammifère aquatique bénéficie d'un coefficient de sympathie bien plus grand qui lui vaut d'être souvent défendu par ses voisins et ses voisines humaines. Alors, animal non indigène, sorti des élevages et ensauvagé, mignon ou inquiétant, manifestation du sauvage en ville ou nuisance sur pattes, selon les personnes et les contextes, le ragondin est pris dans les filets de notre histoire et de nos contradictions. Il traduit bien la complexité des relations que nous entretenons avec les autres espèces animales, les manipulant sans maîtrise et nous trouvant sans cesse rattrapés par les déséquilibres que nous créons. Car une chose est sûre, le ragondin n'a pas fini de se multiplier.
Espace d'espèce, une série documentaire de Lucie Combe et Aurélien Caillot.
Un bout de plastique, un toit enneigé, et c'est parti. Sur les réseaux sociaux, une corneille fait le buzz en s'adonnant au sport d'hiver. L'oiseau se place sur le faîte du toit, pose ses pattes sur le plastique et s'élance dans la pente avant de récupérer sa luge avec son bec et de recommencer. Une autre vidéo nous montre un de ses congénères utiliser des voitures comme casse-noix. Il lâche son déjeuner devant les véhicules à l'arrêt au feu rouge. Une fois le feu passé au vert, les autos roulent sur la coque de sa noix et il ne lui reste plus qu'à attendre que la voie soit libre pour récupérer son contenu. Pratique. En ville, la plupart du temps, on voit surtout ces corneilles noires, Corvus coronae pour les savants, gratter les restes des pique-niques ou grappiller dans les poubelles. Mais qui sait si elles n'en profitent pas aussi pour jouer un peu, seules ou à plusieurs, observer leurs comparses ou développer ensemble des techniques pour obtenir plus de nourriture. Car les corneilles, comme tous les corvidés, corbeaux, pigeons, choucas, chocards, craves, sont non seulement très intelligentes, mais très sociales. Elles grandissent et s'éduquent au contact les unes des autres. Leur organisation sociale est très complexe, au même titre que celle des éléphants, des dauphins ou des chimpanzés. On parle d'une organisation de type fission-fusion. Je m'explique. Les corneilles forment des couples durables, mais vivent aussi en bande, se séparant et se regroupant à différents moments de la journée ou de l'année pour effectuer diverses tâches, comme se nourrir, dormir, explorer, boire. La composition du groupe est donc à géométrie variable. Or, nos sombres oiseaux vivent relativement longtemps, au moins 15 ans a priori. Ils entretiennent donc forcément différents types de relations avec d'autres membres du groupe, ce qui implique d'avoir une bonne mémoire pour se souvenir, par exemple, de qui est proche de qui, ou qui est en couple avec qui, ou qui est fâché avec qui. Et cela induit aussi d'autres capacités cognitives, comme la reconnaissance, la catégorisation, etc. Pour certains scientifiques, au premier rang desquels Robin Dunbar, c'est la dimension sociale des espèces, et notamment des corneilles, qui induirait le développement de leur intelligence. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du cerveau social. Il est souvent difficile de répondre définitivement à une question sur les trajectoires de vie de nos corvidés, car elles ne semblent pas toutes tracées. La plupart des corneilles noires vivent leurs 3 premières années en bande, dont la taille varie selon les lieux d'observation et les ressources disponibles. Mais pas toutes. Certaines restent auprès de leurs parents et les aident avec les pontes suivantes. En Espagne, une équipe menée par la chercheuse Daniela Canestrari a non seulement observé des corneilles non matures aider leurs parents à élever les petits, mais aussi d'autres individus, qui ne faisaient pas partie de la famille, participer au nourrissage et à la protection du nid. Certaines corneilles pratiquent donc ce qu'on appelle la reproduction coopérative. Précisons quand même que c'est assez exceptionnel. D'autant que ces oiseaux construisent leur nid en couple, à l'écart les uns des autres, sauf si aucun autre site favorable n'est disponible. et qu'elles sont tenues de surveiller les fondations au risque de se voir chipper les matériaux par d'autres couples. Elles reconstruisent d'ailleurs chaque année un nouveau nid, et bien qu'elles continuent de vivre avec la même partenaire a priori toute leur vie, ou en tout cas très longtemps, elles renouvellent les jeux nuptiaux pour entretenir les liens qui les unissent. Tendez l'oreille. Vous entendez ce cri rauque et puissant ? Eh bien, c'est une corneille. On ne parle pas de chant pour cet oiseau noir des pieds jusqu'au bout du bec, mais bien de cri. Écoutez comme il se répète plusieurs fois de suite. On dit que les corneilles criaillent, babillent, graillent et corbillent. C'est d'ailleurs leur cri qui est à l'origine de leur nom, dans moult langues, notamment en anglais où corneille se dit « crow ». Il existe beaucoup de variations de cris en fonction des individus et des situations. Des scientifiques pensent qu'avec leurs attitudes et leurs vocalisations, ceux-ci composeraient une forme de langage, pareil à nos mimiques, en plus de décliner une identité et transmettre une information. Car chaque oiseau a sa propre voix et est reconnaissable par les autres quand il communique avec ses semblables. Il a notamment été montré que les corneilles étaient capables de faire la distinction entre le cri d'un congénère fiable et celui d'un congénère qui l'est moins. Elles adaptent leur comportement en fonction. Une autre étude met en évidence le fait qu'elles font la différence entre des individus qu'elles connaissent et des inconnus, au-delà de leur seule espèce, et simplement à la voix ou au cri émis. À leurs oreilles, un chouka n'en vaut donc pas un autre, et tous les humains ne se ressemblent pas. Vos voisines à plumes noires vous distinguent parmi la foule. Et vous, sauriez-vous faire la différence, à l'oreille, entre deux corneilles ? Et d'ailleurs, sauriez-vous affirmer que vous êtes en face d'une corneille et pas d'un corbeau freux ou d'un chouka des tours présent aussi en ville ? La corneille est toute noire, alors que le corbeau freux a un bec gris et que les choukas des tours sont bleu-gris avec une nuque grise. Au sol, elles se déplacent en sautant, quand les corbeaux, eux, marchent. En l'air, elles ne planent qu'en descente et leur vol est direct, ce qui a donné naissance à l'expression anglaise « as the crow flies », équivalent à notre « à vol d'oiseau ». Cela fait des lustres que la corneille est confondue avec le corbeau, et inversement. Les contes et autres récits mythologiques ne sont pas toujours très précis quand il s'agit d'évoquer cet oiseau noir qui plane alentour. Quoi qu'il en soit, ils témoignent d'une cohabitation très ancienne. On sait que les corneilles se sont très tôt nourries des restes de repas d'humains, et qu'elles auraient elles-mêmes servi de nourriture à nos ancêtres, car on a trouvé leurs ossements dans de nombreux sites occupés par Néandertal. On a même des traces de leur exploitation par Homo sapiens. Les interactions humain-corneille sont tellement anciennes que le biologiste John Marsloff les a décrites comme une coévolution culturelle. Chacune de ces deux espèces aurait eu, au fil du temps, un impact sur les pratiques de l'autre. Il faut dire que les corneilles ont ce qu'on appelle une habituation très rapide et qu'il ne fait aucun doute que nos modes de vie ne sont pas sans effet sur leurs habitudes. À les observer en ville, on les sent plutôt à l'aise à surfer sur du plastique ou utiliser nos véhicules comme casse-noix. C'est qu'elles sont capables de comprendre très vite les situations et de trouver des solutions à leurs éventuels problèmes. La célèbre fable de l'écrivain grec Ésope, vérifiée depuis par un ensemble d'expériences, en fait la démonstration. La corneille ayant soif, trouva par hasard une cruche où il y avait un peu d'eau. Mais comme la cruche était trop profonde, elle n'y pouvait atteindre pour se désaltérer. Elle essaya d'abord de rompre la cruche avec son bec. Mais n'en pouvant venir à bout, elle s'avisa d'y jeter plusieurs petits cailloux qui firent monter l'eau jusqu'au bord de la cruche. Alors, elle but tout à son aise. Pour le moment, on ne les a vus utiliser des outils pour accéder à l'objet de leur convoitise qu'en captivité et après avoir été entraînées, ce qui indique quand même qu'elles sont capables d'acquérir de nouvelles compétences dont elles n'ont sans doute pas besoin en milieu naturel. Si on considère bien sûr que faire d'un véhicule un casse-noix ne peut être considéré comme utiliser un outil. Ce qui leur est très utile en revanche, c'est de mettre un aliment dans une poche qui se situe sous leur langue pour aller le cacher en vue d'un prochain repas. Parce que comme beaucoup d'oiseaux, durant l'hiver, la période creuse où il n'y a pas de nid à faire ni de petits à élever, elles passent le gros de leur journée à se nourrir et à chercher de la nourriture. Des graines, des petits rongeurs, des limaces, des escargots, mais aussi des steaks, des frites, du pain, des tomates et autres résidus bienvenus de nos déjeuners. Les corneilles, outre qu'elles ont besoin de beaucoup s'hydrater, ne sont pas difficiles. On les dit opportunistes. Elles mangent un peu de tout Et en France, depuis l'adoption du plan Vigipirate en 1995, qui a conduit à laisser visibles les sacs poubelles à présent transparents, elles peuvent se servir directement à la source. Devenues amatrices de fast-food, certaines d'entre elles repèrent les sacs d'une célèbre chaîne de burgers et viennent déchirer le plastique pour accéder au reste de cette nourriture industrielle. Or, ces ressources abondantes ne sont pas sans effet sur leur population. Si elles occasionnent certes des carences, manifestées par le plumage en partie blanchâtre de certains individus, elles contribueraient directement à la croissance des populations. En Île-de-France, et à Paris en particulier, un programme de suivi a montré que leur nombre a fortement augmenté depuis les années 70. Avoir de quoi manger à portée de bec, ça attire et maintient en vie. D'autant qu'en ville, contrairement à la campagne où elles sont historiquement implantées, à proximité des cultures, elles ne sont pas chassées à coups de carabine. Eh oui, parce qu'en France, elles sont classées ésodes, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Il faut dire que la cohabitation avec les humains n'est pas toujours simple. La thèse de Perrine Lekitsch-Arensol, soutenue en 2023, en témoigne. Démographie et réduction des nuisances des corneilles urbaines. Une coexistence est-elle possible ? La chercheuse s'est penchée sur les populations présentes à Paris, notamment pendant le confinement, où nos déchets alimentaires tendaient à manquer dans l'espace public. Ces travaux montrent que la survie des jeunes corneilles a chuté considérablement pendant cette période. Les populations de Corvus coronae sont donc dépendantes de nos restes. Elle montre aussi que la ville attire avec sa nourriture abondante et suggère qu'en concentrant les mesures sur la réduction de l'attractivité et des dégâts dont les jardiniers se plaignent, plutôt qu'en tuant les oiseaux, on devrait pouvoir cohabiter plus sereinement. Moins de déchets alimentaires disponibles et de l'herbe haute plutôt que du gazon pourrait arrondir les angles. Une autre étude menée dans le Grand Paris indique que la corneille est l'espèce la plus rejetée après le pigeon biseau. Son cri nous agace, sa lissure aussi, et puis on la tient pour responsable de la chute des populations d'autres volatiles, ce que de nombreuses études démentent, car s'il leur arrive de manger des œufs ou des petits oiseaux, elles n'ont de réel impact que sur les populations de faucons cresserelles et de hiboux moyen-ducs, plus populaires, mais incapables de se construire leur propre nid et qui ont donc besoin des vieux nids délaissés des corvidés. On les dit aussi agressives et de mauvais augure. Or, les comportements bagarreurs sont le fait d'individus isolés, comme dans beaucoup d'espèces. Et pour les corneilles, comme pour tout groupe social, il est toujours dangereux de généraliser. Serait-il possible, parfois, de regarder sous ses plumes noires et de considérer son rôle écologique ? Car en plus de disperser les graines, la corneille est un agent sanitaire. Elle mange les individus malades, faibles, voire les cadavres, et ce faisant, limite la propagation des maladies et maintient le milieu sain. Mais comme d'habitude, ce type de petits travaux n'est pas considéré. Quant aux superstitions, ça, c'est une autre histoire, très ancienne, et qu'il serait trop long de développer ici, mais à laquelle, au siècle dernier, un certain Alfred Hitchcock a largement contribué.
Espace d'espèce.
Espace d'espèce. Une série documentaire de Lucie Combes et Aurélien Caillot.
Vous l'avez sans doute remarqué, en période de canicule, mieux vaut être à la campagne. En ville, on étouffe. Et pour cause, les zones urbaines se réchauffent plus vite et se refroidissent moins la nuit que le reste du territoire. Ce phénomène, temporaire et localisé, est appelé l'îlot de chaleur urbain, ICU. Pour vous donner une idée, on a déjà mesuré une différence de 10 degrés entre Paris et Melun, séparés pourtant de seulement 50 km. Dans la région de Bruxelles-Capitale, en été, l'écart de température entre l'hypercentre et le début de la forêt de Soigne, en périphérie, serait d'environ 3 degrés, alors que moins de 12 km les séparent. C'est que nos activités produisent de la chaleur, que les matériaux de construction la retiennent, que le peu de végétation et le manque de sol perméable fait obstacle au rafraîchissement de l'atmosphère, de même que la densité des immeubles empêche l'air de ventiler tout ça. Résultat, on étouffe. Et comme l'écrivain Julien Gracq, on se met à chercher de placides enclaves chlorophylliennes cernées de nos jours par la ronde des moteurs, et à voir dans ces arches de Noé végétales autant de modestes porte-trésors battues de partout, malmenées,
comprimée par la marée de l'urbanisation, mais dont la déflagration végétale explosive, un jour, réensemencera les cités abandonnées.
Bon, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance à planifier la végétalisation des villes. Car on sait que ces aménagements, trames vertes, terrasses ou murs végétalisés, plantations en pleine terre, parcs, permettent de refroidir les zones concernées et leurs alentours de quelques degrés. Bien entendu, cela n'est pas suffisant. Il faudrait aussi revoir le bâti, nos manières de nous déplacer, de consommer, nos habitudes, quoi. Ombrières, stores, végétaux dans les cours d'école et des EHPAD, création d'oasis et d'espaces fraîcheurs, plantations d'arbres, débitumisation, etc., etc. Cela fait quelques années que les municipalités des métropoles font des plans pour rafraîchir leur centre. C'est officiel. Les plantes, c'est l'avenir. Mais pas n'importe lesquelles. C'est vrai que loin de la déflagration végétale rêvée par Julien Gracq, le spectacle estival actuel est plutôt celui de plantes grillées entre deux trottoirs. Cela dit, si on prêtait attention aux anfractuosités des murs et aux toitures, on se rendrait compte que pour certaines espèces héliophiles, qui aiment le soleil, et xérophiles, qui peuvent vivre dans des milieux secs, les îlots de chaleur ne sont pas une menace. Bien souvent, celles qui se dressent fièrement vers le soleil, en haut des toits, sont des plantes grasses ou succulentes, ce qui n'a rien à voir avec le goût ou la graisse, mais avec le latin, succulentus, pleine de suc. Leur sève épaisse et gluante qui circule dans les tissus et s'échauffe peu en cas de chaleur. En plus, elles sont capables de stocker de l'eau dans leurs feuilles, tiges ou racines. Le nombril de Vénus, dont on a parlé dans la pastille Herbe folle, est l'une d'entre elles. Croquez une de ses feuilles et vous verrez qu'elles sont gorgées d'eau. La famille dont elle fait partie et qui regroupe un grand nombre de plantes grasses s'appelle les Crassulacées. Rien à voir avec l'hygiène douteuse, non. C'est encore une histoire de latin. Crassus, épais, qualificatif qui va très bien à leurs feuilles qui sont rarement plates et fines. Si vous levez un peu les yeux vers les toits et les murets autour de chez vous, vous pourrez sans doute apercevoir, et ce en toute saison, des tas de petits boudins parfois surmontés d'une tige et d'une fleur blanche. Laissez-moi vous présenter l'orpin blanc, Sedum album. Oui, parce qu'orpin, c'est un terme vernaculaire, pas savant, qui désigne principalement des plantes du genre sédum, mais pas que. Regardez un peu ce spécimen. 10-15 cm, des feuilles charnues de 1 à 1,5 cm, presque cylindriques, des petits boudins, et qui se tiennent non loin les unes des autres le long de la tige. Leur forme leur vaut au Portugal le nom de arustos telhados, riz des toits. Ces drôles de feuilles sont rouges quand elles sont exposées à la pleine lumière, surtout en hiver, et se teintent de vert tendre lorsque leur croissance reprend au printemps. Elles s'étalent un peu au sol et vivent en colonie durant plusieurs années. Ce sont donc des plantes dites « vivaces » dans le jargon botanique. Mais peut-être avez-vous plutôt en face de vous « Sedum sediforme », l'orpin élevé ou orpin de Nice, qui, quand il est en fleur, peut mesurer jusque 30 cm, et arborer une inflorescence jaune pâle divisée en étoiles. Leurs prédispositions de résistance à la chaleur sont remarquables et ne tiennent pas seulement à leur capacité à retenir l'eau dans leurs tissus. Pour comprendre en quoi les crassulacées sont si singulières, il faut revenir un instant au fonctionnement des plantes. Pour vivre, une plante a besoin d'eau, de lumière, d'air et d'une température adéquate. L'eau, elle l'absorbe principalement par les racines et la fait remonter jusqu'aux feuilles via sa tige grâce à sa transpiration. C'est en effet parce que l'eau s'évapore de ses feuilles, parce qu'elle transpire, que s'exerce une tension qui va permettre à l'eau contenue dans les racines de monter. Les plantes régulent leur transpiration. En fonction de la température, de l'humidité du sol et de l'air ou du rayonnement du soleil, et pour ne pas risquer de se déshydrater, elles ouvrent plus ou moins ce qu'on appelle des stomates, de petites fenêtres situées sur les feuilles, qui une fois fermées rendent celles-ci imperméables. Reste la lumière, ingrédient essentiel pour que nos végétaux puissent pratiquer la photosynthèse, le processus par lequel ils transforment le CO2 présent dans l'air en sucre dont ils ont besoin pour leur croissance. Et par là même, à produire de l'oxygène. Il s'agit d'une opération complexe qui se fait dans les tissus verts dits chlorophylliens, car ils contiennent des pigments appelés chlorophylles, largement impliqués dans la fève. C'est là, dans les feuilles principalement, que se trouvent les cellules expertes dans l'art de la photosynthèse. Les plantes transforment l'énergie solaire en énergie chimique, dans le but d'utiliser cette dernière pour faire du sucre avec le CO2 qu'elles ont absorbé par leurs stomates, les petites fenêtres des feuilles. Transpiration et photosynthèse sont les deux activités quotidiennes de nos végétaux et plus de 90% d'entre eux s'y adonnent de jour pour profiter pleinement de la lumière. Seulement voilà, lorsqu'il fait très chaud et sec, que les sols n'ont plus assez d'eau à fournir, les plantes, qui ne peuvent pas courir se mettre à l'ombre les pieds dans la rivière, vont avoir tendance à fermer les fenêtres pour empêcher l'eau de s'évaporer totalement, ce qui les conduirait à mourir desséchées. Si elles jouent cette carte, elles ne peuvent plus absorber le CO2 contenu dans l'air pour fabriquer du sucre dont elles ont besoin, ce qui peut être une solution à court terme, mais devient dangereux si ça se prolonge. En gros, si les conditions de sécheresse perdurent, elles ont le choix entre mourir de soif et mourir de faim. C'est comme ça que de nombreuses plantes finissent grillées. Mais pas toutes. Les crassulacées ont un petit truc génétiquement inscrit qui fait qu'elles sont adaptées à des milieux secs et chauds, comme les toits du sud-ouest de la France, par exemple. Elles peuvent, si les conditions deviennent extrêmes, pratiquer une photosynthèse singulière qui fait d'ailleurs référence à leur nom. CAM, métabolisme acide crassulacéen. Car si des végétaux issus d'autres familles, comme celle des cactus par exemple, pratiquent aussi cette photosynthèse, c'est bien chez les crassulacées qu'on l'a observée pour la première fois. Je ne rentrerai pas dans les détails très techniques des cellules et des protéines à l'œuvre, et m'en tiendrai à vous dire que leur truc, c'est d'ouvrir leur stomate la nuit et non le jour, pour pouvoir absorber le CO2 et se libérer de l'oxygène qu'elles ont produit, tout en limitant l'évaporation. C'est bien gentil, me direz-vous, mais sans énergie solaire, pas de photosynthèse. Et vous aurez raison. Mais les plantes ont réponse à tout. En gros, elles stockent le CO2 capté durant la nuit en attendant que l'énergie solaire soit disponible pour enclencher le processus de transformation stomate fermée. L'oxygène est lui aussi, en quelque sorte, stocké en attendant d'être libéré la nuit venue. C'est plutôt malin et on se demande bien pourquoi toutes les plantes ne s'y mettent pas. Eh bien d'abord parce que j'ai fort simplifié. Et que ce qui n'apparaît pas, c'est toute la machinerie qu'il faut mettre en place et le coût énergétique pour la plante, sans que la production de sucre ne soit pour autant colossale. Dans des milieux, disons, non arides, le rapport énergie-résultat est meilleur avec la photosynthèse, disons, classique. Notez aussi que dans d'autres contextes, aquatiques notamment, certaines plantes pratiquent la photosynthèse CAM sur la partie qui se trouve sous l'eau et la photosynthèse classique quand une partie de la plante se trouve émergée. Deux types de photosynthèse à l'œuvre en même temps chez une seule plante. Vous imaginez bien que la découverte de ces merveilles d'adaptation a intéressé l'industrie agroalimentaire. Des recherches ont notamment été entamées dans les années 2000 sur le riz pour trafiquer ces gènes et le rendre adaptable aux conditions d'aridité croissante de certains milieux. Affaire à suivre. En attendant, d'autres corps de métier tirent des bénéfices des qualités des crassulacées et de nos orpins en particulier. Les architectes, ingénieurs et techniciens du bâti. Ce sont en effet des plantes que l'on utilise pour végétaliser les toits. Résistantes aux chaleurs, elles se contentent de sols pauvres en nutriments et ne demandent pas d'entretien, tandis qu'elles renforcent l'isolation thermique des bâtiments et participent, à leur hauteur, à rafraîchir les villes. Dans une étude parue en 2011, des chercheurs de l'université de Tufts, au Massachusetts, racontent leur expérience menée sur les toits de la bibliothèque universitaire. Celle-ci montre que les orpins, le blanc en l'occurrence, quand ils sont associés à d'autres espèces moins résistantes aux chaleurs et à la sécheresse, mais qui n'entrent pas en compétition avec eux pour la lumière, ici l'agastache et l'asclepia, vont aider leurs voisines à garder leurs feuilles vertes plus longtemps. Et ce, parce qu'ils couvrent le sol, mais aussi parce qu'ils retiennent l'eau. C'est l'effet cool de l'orpin. L'expérience a été élargie à d'autres sédums, donnant des résultats similaires. Mais on n'a pas attendu que les villes soient des fours pour s'intéresser aux orpins. Un des surnoms du blanc est Trip Madame ou Trick Madame. Les deux versions se discutent. Trip viendrait de triper, sauter, en référence à la réaction que produirait son astringence. Quant à Trick, on raconte que ses propriétés cicatrisantes et adoucissantes lui valaient d'être le remède des femmes ayant subi les coups de leur mari. Ce qui fait écho au nom de ce genre, sedum, du latin sedare, apaiser. À moins que ça ne vienne de sédérer, s'asseoir, en référence à leur tendance à se tenir assise sur les pierres. rien n'est tranché encore. On connaît d'autres usages des orpins, en cuisine notamment, où l'orpin élevé est dégusté en salade ou au vinaigre. Mais bon, on le dit plutôt insipide, voire acre. Alors que bizarrement, l'orpin acre, ou poivre des murailles, semble plus savoureux et relever le goût des plats. Ses feuilles, diurétiques et purgatives, sont toutes petites et imbriquées le long d'une courte tige de 2 à 10 cm, ce qui fait qu'on le remarque surtout en juin, quand il se couvre de ses belles fleurs jaunes. Et devinez quoi ? Ce sont aux fleurs de cette espèce que l'on doit le nom d'orpin, couleur d'or. Il ne vous reste plus qu'à lever les yeux sur les toits, à scruter les anfractuosités du bâti pour les observer à travers la ville. Qui sait ? Peut-être même les verrez-vous habités de leur cortège de butineurs.
Petites échappées, tous les mercredis de 15h à 16h et en rediff le dimanche de 8h à 9h.